10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Bonjour Monsieur ministre de l'Intérieur, Christophe Bonjour. Castaner. Il y a un an, jour pour jour, se déroulait le premier rassemblement des Gilets jaunes. Dans leur langage, c'était l'acte 1 d'une longue série et surtout d'une crise qui a scandé la vie politique chaque semaine et puissamment secoué un pouvoir sidéré par ce soulèvement inédit. Ce qui a commencé comme une jacquerie automobile s'est transformé effectivement en soulèvement social violent, souvent. Les forces de l'ordre ont été mise à rude épreuve, au total presque aussi 11 000 gardes à vue pour 3 000 condamnations du côté des Gilets jaunes, ce qui a fait dire à l'époque à certains que parfois les policiers ont été trop rapides dans les interpellations, on en reparlera. Côté police, près de 300 enquêtes également ouvertes pour des violences contre manifestants et jeudi, le premier procès s'est tenu contre deux policiers. Alors assiste-t-on, monsieur le ministre de l'Intérieur, à une nouvelle période de violence dans notre pays, alors que les Français se préparent à des semaines qui s'annoncent difficiles? Et alors que les tensions également se multiplient dans la société, en particulier sur les questions qui vous concernent, vivre ensemble, laïcité, islam ou islam politique. Tout le monde veut vous entendre ce matin, monsieur le ministre de l'Intérieur. Cette semaine, le quinquennat est arrivé à mi-parcours. Êtes-vous encore en capacité de transformer le pays ou faut-il en priorité apaiser au risque de ne plus rien faire? Ancien membre du Parti Socialiste, on a d'ailleurs presque oublié que vous êtes issu de la gauche. Vous nous direz si vous êtes le dernier représentant de l'ancien monde ou le premier d'un monde nouveau avec de nouvelles menaces et de nouveaux espoirs. Pour vous interroger dans ce grand rendez-vous, Damien Fleureau de CNews, Nicolas Barré des Échos. Mais tout de suite, regardez, c'était hier, Place d'Italie.
Christophe Castaner, bonjour. Le monument hommage au maréchal juin de la place d'Italie, saccagé à coups de baramine, on entend les coups. Est-ce que la France bascule à nouveau dans la violence? C'est ce qu'on a vu hier, en tous les cas, place d'Italie, dans le 13e arrondissement.
Permettez-moi de revenir un tout petit peu en arrière pour bien distinguer deux choses. Les un an du mouvement des Gilets jaunes et donc le mouvement d'origine des Gilets jaunes. Ce mouvement d'origine, c'est quoi? C'est l'expression d'une colère profonde, ancienne, qu'il nous faut entendre, qu'il nous fallait entendre et à laquelle il fallait répondre.
Mais hier, la violence...
Mais on peut prendre un tout petit peu de recul, vu que hier c'était les un an. Mais en même temps, et j'en viens à votre question, il y a cette violence qui a rejoint le mouvement. Et donc, il y a d'un côté la légitimité de demande de justice démocratique, de justice sociale, de justice face à une fracture territoriale telle qu'elle était perçue. Et en même temps, on a vu très vite dans ce mouvement, dès le 24 novembre l'année dernière, la violence arriver sur les Champs-Élysées et rythmer de façon systématique l'essentiel de ces rassemblements. Et hier, ce qu'on a vu, c'est effectivement peu de manifestants, mais par contre, des brutes, des voyous, qui étaient venus pour se battre, pour en découdre avec les forces, pour empêcher les pompiers d'agir et de préserver quelquefois des vies. C'est ce que nous avons vu. Et sur ce monument, si vous regardez précisément, ils ne s'en prennent pas au monument en hommage au maréchal Juin. Ils fabriquent des armes par destination. Ils cassent les plaques de marbre parce qu'ils ont bien conscience qu'elles sont particulièrement dangereuses et ils s'en servent comme des projectiles contre nos forces de
sécurité.
Donc
là, ce ne sont pas des imbéciles, hein, ce sont des brutes et des voyous, hein, c'est ce que vous dites.
Mais ce sont aussi des imbéciles. Vous savez, on peut être à la fois imbécile, brute et voyou. Hélas, certains n'ont pas le monopole.
Vous parlez il y a un an, vous pointiez les manifestants comme étant souvent des militants du Front National à l'époque, Rassemblement National aujourd'hui. Est-ce que vous diriez toujours la même chose aujourd'hui?
Non, il y a un an, le 24 novembre, j'avais indiqué que la seule responsable politique qui avait appelé à soutenir une manifestation sur les Champs-Élysées, c'était Marine Le Pen. C'est la seule. Et on a vu d'ailleurs que ce lieu est devenu un lien emblématique et encore hier, il voulait reprendre les Champs-Élysées. C'est ça la réalité. Ensuite, il y avait dans ce mouvement des populations extrêmement différentes. Et d'ailleurs, celle du samedi 17 novembre de l'année dernière et celle du lundi sur les ronds-points n'étaient pas la même population. Mmh. Et donc on a changé en profondeur. Mais ce qui reste aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont comme seul moteur que la colère, la haine et la volonté d'en découdre.
Justement, Nicolas Barré. Précisément, vous avez mis l'accent ces derniers temps sur le renseignement. Et on a vu... hier à Paris, 300 à 400 éléments ultra-violents. Très précisément, est-ce que vous avez identifié qui ils sont? Quels sont ces groupes? D'où ils viennent?
Vous savez, Hier, il y avait à la fois des gens qui viennent de l'ultra-gauche, dont certains sont connus, et puis il y a aussi ces ultra-jeunes radicalisés au fil des semaines qui portent le fer et qui aujourd'hui s'organisent comme cela. Donc on a un mélange de populations, on a ce risque-là qui est identifié, sur lequel il faut qu'on renforce encore notre renseignement. Mais le renseignement ne peut pas tout. Le renseignement fait en sorte qu'on sait qu'il y aura hier 300 casseurs qui vont venir dans la manifestation à un moment donné.
Mais il y a eu des interpellations préventivement ?
Il n'y a pas d'interpellation préventive, parce que ça n'est pas autorisé par notre droit et nous n'en faisons pas. Par contre, hier, il y a eu 264 interpellations, dont 173 à Paris, avec quelques-unes qui sont symboliques. Vous avez vu ces images, par exemple, de ces policiers pourchassés qui se réfugient dans une laverie. Oui. Un des deux auteurs a été interpellé, je m'en réjouis. Et en même temps, ça me permet aussi de saluer le sang-froid de nos policiers. Vous avez vu ces scènes de cette violence-là. Ils sont attaqués dans la laverie, ils sont armés. Ils ne sautent pas leurs armes. Et ça, c'est ce qu'au fond, les policiers font, et les gendarmes, tous les jours, en France, au quotidien.
Mais d'une manière générale, sur la nouvelle doctrine ou principe de maintien de l'ordre, ça a évolué. Est-ce qu'il fallait, hier, par exemple, interdire la manifestation donc qui devait partir place d'Italie? Est-ce que ça n'a pas contribué aussi à peut-être mettre attention? Vous considérez que vous avez réussi à piéger les manifestants?
La manifestation, elle devait partir, je crois, à 14h. Finalement, ils sont venus très tôt dans la matinée. Donc, on était déjà en dehors du cadre de la manifestation. Et dès la matinée, ils ont commencé à casser, à brûler, à piller du mobilier urbain quelques commerces, à empêcher nos forces d'intervenir sur les incendies et à s'opposer
physiquement. Vous auriez pu l'enlever
avant,
ce mobilier urbain, non? Vous aviez toutes les informations. Vous saviez qu'il pourrait y avoir des manifestations et des casseurs. Pourquoi vous n'avez pas, au fond, enlevé avant le mobilier urbain?
Alors, je ne veux pas dire ça pour me défausser, mais ce n'est pas l'État et le ministère de l'Intérieur qui gèrent le mobilier urbain des communes.
J'entends
mais
bien.
Au fond, toute la difficulté, et je ne veux surtout pas jeter la pierre sur la mairie de Paris, toute la difficulté est que quand vous avez un parcours assez grand, qui partait de la place d'Italie et qui devait aboutir ailleurs, vous n'avez pas la possibilité de supprimer tout le mobilier urbain dans tout Paris. Vous avez la nécessité de le protéger, d'enlever les équipements de chantier. C'est ce qui est fait le plus souvent par toutes les mairies de France. Parce qu'on a beaucoup parlé de Paris, mais hier, il y a eu d'autres manifestations qui se sont bien passées. Et même cette semaine, il y a eu plusieurs manifestations dans Paris qui se passent bien. N'oublions pas cela. Aujourd'hui, en France, on peut manifester librement, de façon organisée et correctement.
Damien Fleurot.
La radicalisation de cette contestation, on l'a vu, est-ce qu'elle vous inquiète avec les rassemblements prévus, notamment le 5 décembre, une forme peut-être de convergence entre les organisations syndicales classiques, traditionnelles, et ces mouvements de gilets jaunes, ultra-jaunes, comme vous le dites?
La radicalisation dans les manifestations, elle n'est pas nouvelle. Souvenez-vous des lois El Khomri, souvenez-vous de tous les grands sommets internationaux et au fond, on les oublie vite.
On a l'impression qu'on franchit un cap à chaque fois.
Moi, je ne crois pas. Quand vous regardez les manifestations El Khomri, quand vous regardez les 1er mai 2017, le 1er mai 2018, souvenez-vous le 1er mai 2017 de cette image d'un CRS enflammé par un cocktail Molotov, on a déjà ces violences. Mais là, c'est vrai qu'elles sont de façon beaucoup plus systématiquement présentes et on voit bien comment c'est violent. Font un peu comme le coucou, ils vont dans le nid des autres. Mais quand vous avez des manifestations qui sont bien organisées, les partenaires sociaux savent organiser des manifestations, vous n'avez pas ce genre de problème. Je pense qu'il faut avoir cela en tête, mais quand on est ministre de l'Intérieur, on est d'un naturel inquiet. Non pas parce qu'il faut être inquiet, mais parce qu'il faut prévenir tous les risques. Et donc nous organiserons aussi une présence policière pour accompagner, que nous adaptons selon les situations,
est-ce que ça
pour accompagner les manifestations qui viendront si elles viennent.
Ça préfigure une sorte de violence généralisée? Est-ce qu'au fond, on avait beaucoup dit l'année dernière que peut-être les syndicats allaient infiltrer les gilets jaunes? On voit maintenant que c'est plutôt les gilets jaunes qui arrivent et qui veulent rejoindre les syndicats, qui déclenchent parfois des mouvements spontanés de révolte à l'intérieur de secteurs très syndiqués. Est-ce que cela, ce n'est pas, au fond, une nouvelle forme de violence à laquelle vous allez peut-être vous confronter dans quelques semaines?
Il y a deux questions dans votre question. La première, c'est qu'on le voit depuis quelques mois. Oui, si vous me le permettez.
Allez-y.
Depuis quelques mois, on voit que les gilets jaunes, qui sont très peu nombreux, tentent de se joindre à toutes les mobilisations, à toutes les manifestations, sans aucune cohérence de corpus idéologique d'ailleurs. Ils peuvent être dans toutes. Ils étaient la semaine dernière dans cette manifestation contre l'islamophobie, même si je n'aime pas ce terme et je n'aime pas forcément cette manifestation. Nous y reviendrons. Et puis ensuite, ils vont être avec les hôpitaux. Ils sont sur toutes les mobilisations. Et à l'inverse, il y a ces radicalités que l'on voit aujourd'hui dans l'expression, et moi qui m'inquiète. Notre société aujourd'hui refuse au fond le débat et on considère que parce qu'on a raison, on doit imposer sa raison aux autres. Vous savez, le soutien un peu populaire qu'on a sur les mouvements de désobéissance civile, je ne me prononce pas sur le fond de la revendication qui est portée par ceux qui portent la désobéissance civile, mais au fond, c'est la légitimité que l'on tire de sa propre opinion et qui doit s'imposer à tous. J'ai le droit de fermer une galerie marchande parce que je suis contre les commerces qui sont
majoritairement soutenus. On l'a vu dans un sondage récent, là, 52% des Français soutiennent ou ont encore de la sympathie. C'est moins qu'au début du mouvement, mais ça reste majoritaire.
Mais parce que les Français sont inquiets, parce qu'il y a des colères profondes. Mais d'où viennent-elles? Elles ne viennent pas de telle ou telle décision qui aurait été prise ces semaines dernières. Vous savez, l'élection même d'Emmanuel Macron, il y a 2 ans et demi, avec l'élimination de tous les chefs et tous les partis politiques traditionnels, montrait qu'il y avait de toute façon un malaise social. N'oublions pas qu'au deuxième tour, nous étions contre le Front National.
Enfin, vient aussi peut-être 35%. Le sentiment que les premiers de cordée étaient que, pour faire vite, n'étaient que ceux qui intéressaient uniquement le pouvoir dans sa volonté de réforme du pays et se sont rappelés de manière violente à ce
On peut avoir ce sentiment, mais vous savez, parce que vous êtes un observateur, que ça n'est pas la réalité. Que quand on porte 5 milliards d'euros de baisse supplémentaire des impôts, ça porte sur les plus petits revenus de ce pays et ceux qui payaient le moins d'impôts et qui vont en payer encore moins. Quand on augmente la prime d'activité, vous savez qu'elle concerne 3,5 millions de personnes.
Tout ça, c'est
elle ne vous concerne pas, elle ne me concerne pas.
Mais comment est-ce que vous expliquez que Nicolas malgré toutes les mesures que vous avez prises, au total, il y en a... pour 17 milliards d'euros, cette contestation, cette colère soit toujours présente.
Parce que je crois d'abord que la France a cette culture de la colère, cette culture de la contestation. Vous savez, il n'y a pas un automne depuis que je suis au gouvernement. En 2017, il était rythmé par Jean-Luc Mélenchon qui nous a annoncé toutes les 2 semaines 1 million de personnes dans la rue. Voilà, on a ce rythme-là et ce rituel-là. On est un pays qui a un peu du mal à bouger et qui en même temps veut bouger. Si vous prenez la question des retraites, on y reviendra peut-être. Ouais. Les Français ont conscience qu'on a un système de retraite qui aujourd'hui n'est plus financé. Les plus jeunes pensent qu'ils n'auront pas le droit à la retraite. Ils ont aussi conscience qu'il n'est pas juste. Alors oui, il faut le changer, il faut prendre le temps de le changer. Mais du coup, vous appréhendez quelque part au fond de chacun des inquiétudes. Elles sont réelles. Et donc, il faut aussi prendre le temps d'expliquer. Donc, je crois qu'il est difficile de réformer dans ce pays, mais je pense que ce pays a besoin qu'il soit réformé.
On se retrouve dans quelques instants pour parler du rapport entre les policiers et les Français.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
On retrouve notre invité exceptionnel, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, en ce jour anniversaire, on va dire, entre guillemets, de l'acte 1 des Gilets jaunes, et également, d'une manière plus générale, le problème sur la relation entre les policiers et les Français. Regardez, écoutez.
Le gouvernement a réussi à faire en sorte de diviser les policiers et les manifestants, ce qui fait que ça dégénère comme vous le voyez, et c'est pour cette raison-là que maintenant le trois quarts des personnes n'aiment pas la police.
Aujourd'hui on est dans un système, on a des doléances, mais on n'a pas la possibilité de les exprimer. Et on se retrouve sur une place avec des gaz lacrymogènes qui tombent dessus, et ça crée une escalade de la violence.
Nicolas Barré.
On n'aime pas la police, vous venez de l'entendre. Le patron du syndicat des commissaires de police, David Lebar, publie un livre en ce moment intitulé « La haine dans les yeux ». C'est quand même un titre éloquent. Comment est-ce que vous expliquez cette haine du flic de la part d'une partie de la population, effectivement?
Je vous remercie d'avoir corrigé et de dire de la part d'une partie de la population, parce que les deux témoins qui se sont exprimés ne sont pas totalement représentatifs des Français, si je peux me permettre. Et la haine dans les yeux, ce dont parle David Lebar, c'est effectivement ce que les policiers vivent dans les manifestations. Parce que quand vous avez bien regardé hier, on n'a pas vu des méchants flics agresser de gentils manifestants. On a vu des barbares, et je ne me trompe pas de mots et je ne mélange pas les mots quand je dis cela, et je pense à Jean-Luc Mélenchon qui considère lui que les barbares sont les policiers. On a vu des barbares s'en prendre à l'espace public et obliger les policiers d'intervenir. Aujourd'hui, les Français continuent à soutenir très majoritairement la police. D'ailleurs, quand vous regardez même les études d'opinion, ça progresse en termes de soutien depuis ces 5-6 dernières années. Donc c'est non négligeable. Mais il y a des tensions qui sont extrêmement fortes. Il y a des tensions qui sont extrêmement fortes, et pas seulement dans les manifestations, dans les banlieues aussi, on sait que c'est une tension qui existe.
On l'a vu il y a quelques semaines, dans quelques banlieues, notamment dans les Yvelines. C'est effectivement les attaques contre les policiers qui commencent tout de suite à lancer les manifestations.
Et votre remarque sur les violences urbaines est très révélatrice. C'est-à-dire que quand je regarde la statistique, elles ont baissé sur les 9 premiers mois de cette année, par exemple, sur la plaque parisienne, de 4,6%. Mais elles sont beaucoup plus violentes. Ce que nous avons vu à Chanteloup-les-Vignes, c'est l'organisation d'un guet-apens où on met le feu, on fait venir les pompiers, la police vient pour protéger les pompiers. Et à ce moment-là, on a organisé depuis des points hauts comme un état de guerre, la violence contre les policiers.
Comment vous qualifieriez ceux qui ont dégradé justement et fait les manifestations à Chanteloup-les-Vignes ?
Ce sont de toute façon des délinquants et ce sont des criminels, parce que la justice les a qualifiés de criminels et qu'on est
donc
dans une situation criminelle.
Pas seulement des imbéciles, comme l'avait dit Édouard Philippe.
Mais je vous ai dit tout à l'heure, ne jouons pas sur le mot, ce sont aussi des imbéciles. Mais ce sont des criminels, la justice a engagé une procédure criminelle. Mais ce que je veux dire, c'est que ces tensions-là, il nous faut de toute façon les apaiser. Et ça ne relève pas que du rapport entre la police et ceux qui sont à l'origine de ces tensions. C'est une réponse sociale que nous devons porter. Dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce que nous avons fait avec le grand débat national et avec des mesures de justice fiscale, de justice sociale. C'est la même chose dans les quartiers. Nous devons continuer à hyper investir dans l'aménagement urbain de ces villes, dans l'accompagnement social. Et c'est pour ça que quand je me suis rendu à Chanteloup-les-Vignes, j'ai proposé à la garde des Sceaux, ministre de la Justice, et à Julien de Normandie, ministre du Logement et de la Politique de la Ville, de m'accompagner. Parce que la réponse que nous devons construire est une réponse globale et que nous construisons avec les élus locaux, avec les associations, avec les parents.
Mais les policiers vous demandent aussi une réponse globale parce qu'ils sont sursollicités, ils sont épuisés. Vous êtes évidemment en première ligne pour le savoir. Il y a la rédaction qui a commencé d'un livre blanc, un peu sur le mode donc de ce qu'on connaît pour l'armée, qui pourrait déboucher sur une réorganisation complète de la sécurité à l'intérieur. Ce serait un rapport supplémentaire qui ira sur les étagères après ou... ça va déboucher sur quelque chose de plus concret.
Alors, ça n'est pas un rapport, c'est un livre blanc qui doit faire une photographie de l'état de la menace et qui doit construire le pacte de protection des Français que nous voulons pour les 10 années qui viennent. Et les 10 ans, c'est long, parce que vous savez que la violence, elle peut venir de toutes parts et évoluer très vite. La cybercriminalité, par exemple, évolue très vite. Et donc, nous le construisons aujourd'hui avec une concertation la plus large possible et la plus novatrice possible. Et évidemment, avec les policiers. Parce que dans l'épuisement, y compris l'épuisement moral face à une maison qui est fatiguée, qui est usée, et pas seulement par la gestion de manifestations. Il nous faut des réponses. 10 000 emplois supplémentaires dans le quinquennat. Le budget de la police et la gendarmerie, de la sécurité, a augmenté de 1 milliard d'euros avec le budget que je présente ces jours-ci à l'Assemblée depuis 2017. Ce sont des réponses concrètes, y compris sur le pouvoir d'achat des policiers. Le paiement des heures supplémentaires. Depuis 2005...
Une partie.
Mais depuis 2005, on stockait des heures supplémentaires. Je me suis engagé avec Laurent Nunez, quand j'ai pris mes responsabilités, à ce que nous puissions commencer à honorer ce que j'ai appelé une dette. Nous sommes le premier gouvernement à payer 50 millions d'euros d'heures supplémentaires.
Alors, on dit même que vous avez mis votre démission dans la balance pour obtenir cet arbitrage.
Bon, alors ça, c'est bullshit.
D'accord. Il faut une loi de programmation.
Non, alors, je veux dire, non,
c'est
même,
fait, comme ça, c'est réglé.
Oui,
voilà.
Non, mais même, en plus, c'était un engagement avec lequel nous avions travaillé avec le Premier ministre dès décembre 2018. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez ancien. Il nous fallait les marges de manœuvre budgétaire. Et je vous assure que le Premier ministre...
Mais ce livre blanc, est-ce
qu'il faut une loi de programmation comme pour l'armée, voilà, pour la police, la pour sécuriser ses budgets dans les années à venir ?
Et au moment où je suis, parce qu'on est en début de concertation, je ne veux pas vous dire quelle sera la réponse et quelle sera la forme. Moi, je veux utiliser toutes les formes possibles pour améliorer la situation.
Mais vous n'y êtes pas opposé.
Les questions évidemment, pas opposé. Les questions d'organisation interne, c'était dans votre question, M. Darmon, tout à l'heure, sont des questions essentielles. Elles n'auront pas forcément besoin de loi. Il y a des règlements qui sont disponibles, mais il y a aussi des évolutions législatives et avoir une grande loi d'orientation sur les objectifs. Et surtout, ça nous permet de travailler avec la représentation nationale, ce qui me paraît essentiel. C'est quelque chose qui est dans
nos
objectifs.
Enfin, vous n'êtes pas sûr, quoi. Pourtant, certains policiers disent, mais on a l'impression qu'on donne plus d'importance à l'armée, on sanctuarise les budgets, on fait un consensus politique. Et nous, les policiers, on n'a pas de loi de programmation. On n'est pas, au fond, assurés de pouvoir travailler correctement. Qu'est-ce que vous en dites ?
Vous savez, les premières négociations que j'ai eues avec les organisations sociales, c'était en décembre 2018. On ne parlait pas de l'OPSI, on parlait de revalorisation salariale. Nous avons mis en œuvre un protocole de revalorisation salariale. Ce sera 120 à 130 euros net par mois pour tous les CEA au sein de la police. Et c'est aussi le cas pour les sous-officiers dans la gendarmerie. Donc, tout ça sont des outils, ce sont des briques pour construire ce pacte de protection que nous allons construire pour les Français. N'opposons pas, d'ailleurs, la police et l'armée. Nous sommes très complémentaires au niveau français du territoire. Et nous sommes très complémentaires aussi sur l'international. Nous aurons besoin aussi de nos forces armées dans la lutte contre le terrorisme.
Christophe Castaner, les préfets ont maintenant la possibilité d'interdire certains individus de manifester. Auparavant, il fallait l'intervention d'un juge. Est-ce que c'est utilisé, cette prérogative, et dans quelle mesure ?
Et en fait, c'était prévu dans le texte qui a été voté par les parlementaires et c'était censuré par le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on a un paradoxe. J'ai la possibilité d'interdire des étrangers de venir manifester en France. C'est quelque chose que j'ai utilisé pour préparer au mieux le G7 à Biarritz, dont d'ailleurs vous avez pu remarquer qu'il n'y a eu aucun incident, ce qui en gros n'était plus arrivé depuis 20 ans au sommet de Seattle. tous les sommets internationaux provoquent des violences. Là, on les a contenus et c'était bien organisé grâce à un travail de renseignement et grâce au fait que j'ai pu interdire des manifestants étrangers dont on savait qu'ils étaient violents. Je n'ai pas aujourd'hui cette possibilité dans le droit français pour des nationaux français.
Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit possible demain ?
Bah moi, j'espérais que ça le soit. Le Conseil constitutionnel a considéré que c'était attentatoire aux libertés. Moi, vous savez, quand le Conseil constitutionnel me dit cela, j'applique la loi dont je dispose. Ensuite, beaucoup ont voulu tout mélanger. J'ai même entendu un député rappeler que c'était l'époque de Vichy. Moi, je veux dire assez simplement, quand un casseur vient un samedi, effectivement, on doit pouvoir lui dire le samedi suivant de rester chez lui.
Alors, à propos casseur, justement, on a appris que des casseurs de la laverie, hier, que vous évoquiez tout à l'heure, hein, face aux policiers, a été interpellé. Est-ce que vous avez des informations sur son profil ? Qui est-il ? D'où vient-il ?
Non, il est en garde à vue et donc je n'évoquerai pas sa situation. Il sera mis à la disposition de la justice et aujourd'hui,
mais est-ce
à l'heure
qu'il est,
qu'il est, il est toujours en garde
à vue. Pour vous, d'après ce que vous savez, est-ce que c'est un casseur entre guillemets professionnel ou c'est un manifestant gilet jaune plus classique ?
Je ne sais pas ce que sont les casseurs professionnels, mais ce que j'ai vu, ce sont des hommes poursuivre avec l'intention de les violenter, pour ne pas qualifier, deux policiers qui se sont protégés dans une laverie. Et surtout, ce que j'ai vu, ces deux policiers gardaient leur sang-froid et j'ai vu d'autres policiers venir ensuite les sécuriser.
Alors, à propos de sang-froid, il y a eu aussi quand même beaucoup de polémiques hein, pendant cette année de manifestation donc, face aux gilets jaunes de la part des policiers, notamment dans l'utilisation donc, des lanceurs de balles de défense, les fameux LBD, qui ont blessé donc, des manifestants. Est-ce que vous allez les maintenir dans les prochains cortèges, dans les prochaines manifestations qui se préparent, notamment pour la mobilisation contre la réforme des retraites ?
Moi, j'ai toujours dit que les LBD étaient des armes de défense. Et ce sont des armes de défense qui permettent aux policiers, aux gendarmes...
aujourd'hui ?
C'est pardon ?
Vous allez les maintenir, ces présences,
mais
cette
nous y
LBD ?
Travaillons. Alors, pour l'instant, je le maintiens évidemment et nous y travaillons. Le groupe de travail que nous aurons mis en place, qui travaille non pas sous mon autorité, mais de façon indépendante pour nous aider à élaborer le nouveau schéma national de maintien de l'ordre, a reçu, par exemple, la semaine dernière, les ophtalmologistes qui avaient contribué à une analyse médicale dans la revue The Lancet. Et donc, on les a reçus, on les écoute. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut des armes intermédiaires. Face à la violence qu'on a vue encore hier, il faut que nos policiers soient équipés d'armes intermédiaires qui ne soient pas les armes administratives dont ils disposent aussi et qu'ils n'utilisent pas. Regardez quand même que sur les 55 000 manifestations dans le cadre du mouvement social des Gilets jaunes, pas une fois il y a eu un incendie, un incident lié à une arme intermédiaire. C'est aussi très révélateur du sang-froid de nos policiers.
On a vu aussi comment l'LBD pouvait blesser de manière assez grave.
12 personnes, par exemple, je vous donne le chiffre précis, 12 personnes ont été blessées à l'œil et aujourd'hui font l'objet d'une enquête sous l'autorité judiciaire.
Nicolas Barré.
De nombreux maires, ce sera la semaine prochaine le congrès des maires, de nombreux maires ont demandé à votre ministère de leur allouer davantage de policiers et souvent ils se plaignent que ça n'arrive pas. Qu'est-ce que vous leur répondrez ?
Que nous lançons un programme exceptionnel de 10 000 recrutements supplémentaires de policiers, de policiers et de gendarmes. Et qu'ensuite, nous le faisons en fonction d'une cartographie nationale qui est liée avec plein d'indicateurs. Ce que je sais aussi, c'est que cette année, avec les 2 000 recrutements supplémentaires, nous allons à peine retrouver le niveau en nombre de ce que nous avions en 2007, avant la suppression de 12 000 emplois dans la police et dans la gendarmerie. Et pourtant, la population a accru et les difficultés n'ont pas baissé. Donc oui, il y a des besoins. Il y a des besoins partout sur le territoire. Nous montons en puissance avec un plan de recrutement massif. Mais tout n'est pas que dans le recrutement. La question, c'est aussi celle de l'organisation de notre intervention. La police de sécurité du quotidien, c'est aussi une façon différente de faire de la police. Je pense qu'on a commis une erreur et qu'on n'a pas été très courageux ces dernières années. Parce qu'on, les politiques au sens large... la majorité que je sers comme ministre, mais la majorité présidente que je servais comme député de la majorité. Donc, je ne veux pas m'amuser à ces polémiques-là. Mais au fond, on a répondu par des créations d'emplois et on n'a pas forcément pensé à refonder l'intervention de la police et de la gendarmerie. C'est ce à quoi le livre blanc doit nous amener aussi.
D'accord. Alors, on se retrouve donc dans une troisième partie dans quelques instants pour évoquer notamment la question des listes communautaires, communautaristes. Que peut-on faire pour les empêcher ou peut-on les empêcher ?
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
On se retrouve en troisième partie de ce grand rendez-vous avec Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Écoutez, regardez. C'était un projet par rapport au projet d'attentat donc, contre le président de la République hein, de la part de membres d'extrême droite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin ? Sur ce projet d'attentat déjoué.
J'aurais tendance à vous répondre rien. Rien, et vous savez pourquoi ? Parce qu'on est dans une instruction judiciaire. Mais je peux vous donner quelques éléments ou confirmer des éléments qui sont connus. Dans la presse, il y a effectivement, l'année dernière, au moment où le président de la République a fait ce qu'on appelait la tournée mémorielle liée à la Grande Guerre, il y a un individu qui projetait d'organiser un attentat contre le président de la République et qui avait quelques complices qu'il a sollicités, y compris pour l'héberger, pour le financer, pour trouver des armes. Et c'est dans le cadre de cette procédure que deux individus ont été mis en cause cette semaine.
Combien d'attentats ont-ils été déjoués finalement durant l'année 2019? On arrive maintenant pratiquement à la fin de la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'attentats ont été déjoués?
4 attentats ont été déjoués, mais en réalité, c'est une comptabilité assez étrange pour moi, ministre de l'Intérieur. Parce que ce que je sais, c'est que presque tous les jours, l'ensemble de nos services, de la DGSE à l'international, de la DGSI au niveau national sur le renseignement intérieur, mais aussi l'ensemble de nos services qui interviennent, que ce soit ceux du ministère de la Justice en prison et nos services, nos forces de sécurité intérieure, interviennent et je vois des fiches, je vois des procédures, je vois des empêchements à commettre l'irréparable. Mais il y a eu 60 attentats déjoués depuis 2014, formellement, et il y a eu 19 attentats qui n'ont pas abouti, même s'ils ont pu commettre des blessés.
Damien Fleurot.
Christophe Castaner, vous avez lu attentivement ce rapport de parlementaire d'Yar Pouyas sur la lutte contre la radicalisation, notamment dans certains services publics. On a tous en mémoire cette attaque à la préfecture de police en octobre dernier. Comment faire évoluer le droit pour pouvoir éloigner ces individus qui se radicalisent et les mettre à pied éventuellement s'il le faut?
Dans les services publics.
Alors d'abord, le rapport d'Yap Pouyar soulignait que le ministère de l'Intérieur avait avancé très significativement sur ces sujets parce
mais
que c'est essentiel.
Des
et malgré tout, on a vu qu'on pouvait avoir des failles. Et hélas, la mémoire que nous avons de l'attentat du 3 octobre à la préfecture de police le montre bien. Et donc, il est essentiel que nous soyons particulièrement vigilants. On a des grilles d'évaluation qui sont à notre disposition. On doit renforcer cela. C'est ce que nous faisons encore à la préfecture de police. Dès le 10 octobre, le préfet de police a pris des mesures pour renforcer cette dimension-là.
Charte, par exemple, que les fonctionnaires signent une charte sur des valeurs de la République, de laïcité.
Je veux dire, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que signer une charte. Il faut de toute façon respecter, c'est une obligation quand vous êtes fonctionnaire. Et donc sur le ministère de l'Intérieur, nous avons eu une quarantaine de signalements et je peux vous dire que nous utilisons tous les outils pour écarter de la fonction du ministère, de la fonction publique au ministère de l'Intérieur, celles et ceux qui seraient concernés. Certains en mettant fin à leur contrat, certains ne les titularisant pas après une stagiairisation. Nous l'utilisons au maximum et nous aurons demain les moyens aussi de radier quelqu'un de la fonction publique pour radicalisation. Mais attention,
demain,
attention
vous dites,
à ne pas...
On aura les moyens demain, quand?
Parce que la loi nous le permet, mais aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur, je n'ai pas eu besoin d'utiliser cela.
Il y aura
parce
des recours possibles, regardez l'exemple de cette policière musulmane qui a été écartée récemment et qui porte plainte
recours.
En disant c'est une chasse aux sorcières, c'est impossible.
Mais je veux dire, il faut des recours parce qu'effectivement, il faut faire attention à ce qu'on ne tombe pas dans le travers de penser qu'une fonctionnaire, je ne dis rien, dans le cas particulier, il y a une procédure administrative, elle va passer en conseil de discipline et donc je vais respecter les échéances du conseil de discipline. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on serait suspect de quoi que ce soit. Il faut qu'on soit extrêmement clair sur ce sujet. Par contre, il peut y avoir des phénomènes de radicalisation. Il y a des femmes et des hommes dans nos administrations qui sont formés et spécialisés pour identifier ces signes-là. Et ensuite, il nous faut utiliser les procédures pour déplacer un agent si on considère qu'il présente un petit risque et aller jusqu'à la révocation si on considère qu'il présente un risque pour notre administration et donc pour les Français.
Comment éviter de passer de la vigilance à la méfiance, à la délation, à la dénonciation? Quels sont... pour la société, parce que là, vous avez évoqué les outils pour la fonction publique. Mais l'appel du président de la République, c'est de dire « je mobilise toute la société ». Comment peut-on faire pour éviter de créer une méfiance généralisée?
D'abord, en expliquant ce dont on parle. La société de la vigilance, c'est la société de l'attention. De l'attention aux autres, dans le quotidien, mais aussi de l'attention aux autres dans le risque qu'ils présentent. Vous savez, quand vous êtes dans une gare ou un aéroport, que vous voyez un bagage non accompagné, seul, posé là, vous prévenez. Et c'est cela qu'on demande, c'est de prévenir. Mais ce n'est pas de juger.
Ce n'est pas des valises qui ont demandé de surveiller, on demande de surveiller des gens.
Mais c'est pour ça que je dis, ça n'est pas de juger, ça n'est pas de stigmatiser, c'est de prévenir d'un risque. Et ensuite, il y a des professionnels formés pour cela qui doivent analyser. Vous savez, je ne me suis pas fait piéger, mais j'ai vu comment certains peuvent détourner vos propos. J'ai rappelé la grille d'évaluation dont disposent nos services depuis 2014. Parce que depuis 2014, on a mis en place un site internet, un numéro d'appel d'urgence qui s'appelle Stop Jihadiste. Vous pouvez faire des les signalements. Donc nos services ont une grille d'évaluation. J'ai rappelé cette grille d'évaluation. Alors bien sûr, certains n'ont pris qu'un élément en disant « Ah vous voyez, ils considèrent que les barbus, et je suis barbu, seraient un signe de radicalisation. » Je ne considère pas cela. Et d'ailleurs, quand vous travaillez sur ce qu'on appelle un faisceau d'indices, en droit administratif, dans le droit, vous savez, quand il n'y a pas de réponse juridique, vous travaillez sur un faisceau d'indices. Ça veut dire que tous les éléments peuvent vous amener à penser que... Quelquefois, un seul élément suffit et quelquefois, tous les éléments n'amènent pas à la conclusion. Ça, c'est l'intelligence de celles et ceux qui, formés pour, doivent nous aider à prendre cette décision.
Alors justement, être soumis à cela durant la prochaine campagne municipale, Nicolas
justement,
Barret.
Autre sujet compliqué sur le plan du droit. Hein, il est juridiquement très compliqué d'interdire des listes communautaires. Alors qu'est-ce que vous avez à ce sujet comme remontée du terrain? Est-ce que vous sentez que ce genre d'initiative est en train de se multiplier?
C'est quoi la méthode?
Non, à votre question de savoir si je sens que... Mais ça, c'est caractéristique de nos débats franco-français. Mmh. C'est-à-dire qu'on débat de sujets qui, en réalité, ne correspondent pas à des réalités, sont assez accessoires sur le terrain.
Quelle est la réalité? Et on néglige... On dit une cinquantaine, à peu
même
près.
Pas. Même pas au moment où je vous parle.
Quelle est la réalité? C'est l'entrisme, plutôt, c'est ça?
La réalité, non. D'abord, il y a l'entrisme sur les listes. Mais ce que je veux dire, les listes communautaires ne sont qu'un épiphénomène d'un phénomène plus profond. C'est l'islamisation de certains quartiers. Et en disant cela, je fais bien attention à considérer que l'islam, c'est une religion. L'islam, c'est une culture. Et la religion comme la culture, je serai toujours
alors,
le premier à les défendre.
C'est quoi, on les évite,
l'islamisation des quartiers, c'est effectivement d'organiser un système parallèle à la République. Et là, il y a un vrai danger. Et nous avons des adversaires et nous devons combattre pied à pied, mètre carré par mètre carré, pour que la République soit partout chez elle. Et à côté de ça, on débat de sujets qui ne sont pas essentiels. Celui des listes communautaires, au moment où je vous parle de ceux qui me remontent des préfets,
vous dites,
nous
marrant.
Avons identifié deux commune en France où quelqu'un nous dit vouloir créer une liste qui serait communautaire. Et donc effectivement, le droit est assez limité sur ce sujet.
Comment on va faire, on va
systématiquement veiller à ce que chacune des expressions de ceux qui porteraient cette ambition-là soit contrôlée par nos préfets. Et je ne laisserai rien passer. S'il y a un mot lié à l'antisémitisme, nous poursuivrons et nous ferons en sorte qu'il soit condamné. C'est cela qu'il faut faire. Et à côté, j'invite aussi tous les élus à faire attention à ceux qui, à un moment donné, apparaissait comme une liste du vivre ensemble, où on prenait toutes les communautés et tous les représentants de communautés, et ça existe. Et ça existe déjà, hélas, depuis quelques années. Et au fond, on dilait certaines mesures qui nous faisaient un tout petit peu reculer sur la République. On ne recule jamais sur la République.
Pourtant, vous dites, on a mis peut-être sur la place publique ce sujet, alors qu'au fond, il n'y a pas tant de listes que ça qui sont en train de s'organiser, comme vous nous le dites. Mais c'est le gouvernement qui a mis sur la table ce sujet. C'est parti de la part de ministres qui nous ont expliqué leurs craintes. Pourquoi tout d'un coup, vous dites, on a gonflé un sujet qui n'en était pas un?
Vous savez d'où c'est parti? Je vais tout vous dire.
Allez-y,
parce
vous êtes là pour ça.
Parce que
je ne
cache rien. C'est parti de la présentation que j'ai faite en Conseil des ministres du résultat des élections européennes. Parce qu'aux élections européennes, il y avait une liste, la 34e liste, qui effectivement était portée par un mouvement communautaire. J'ai refusé cette liste parce qu'il y avait des anomalies de forme dans le dépôt. La liste a fait un appel au Conseil d'État. Le Conseil d'État leur a donné 48 heures pour déposer la liste. Ils ont pu la déposer. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans certains quartiers de certaines communes, pas un grand nombre en France, cette liste, dont il fallait imprimer les bulletins de vote, a fait un score assez élevé. Et donc, en Conseil des ministres, j'ai moi-même présenté cela comme une anomalie et comme quelque chose qu'il nous fallait surveiller. C'est notre rôle de surveiller cela. Mais le fait de parler d'un sujet qui pourrait monter me paraît important. Mais il n'est pas pour autant le sujet principal dont on parle, parce que je peux vous dire que la lutte contre la radicalisation me paraît un sujet majeur. Mais je ne rejette pas le débat sur la liste communautaire. C'est un symbole peu nombreux, mais c'est un symbole. Et les symboles en politique sont importants.
Alors justement, question symbole, on va continuer à ce sujet. Donc Damien Fleurot.
Oui, il y a un sondage sorti en septembre dernier, publié par Le Point et la Fondation Jean Jaurès, et qui nous indique que 27% des musulmans français pensent que la loi islamique, la charia, devrait s'imposer par rapport aux lois de la République. 65% ne sont pas d'accord. Mais votre réaction à ce phénomène et à cette part très importante tout de même, 27% qui disent que la loi islamique devrait s'appliquer en France.
Je pense que c'est un échec collectif. Je pense que l'islam a toute sa place en France, mais avoir sa place pour une religion, c'est respecter le principe de la laïcité. La laïcité, c'est quoi ? C'est garantir à chacun le droit de croire et garantir à chacun le droit de ne pas croire. C'est garantir à chacun la possibilité de critiquer une religion. Mais c'est aussi faire en sorte d'affirmer qu'aucune religion n'est supérieure aux valeurs de la République. Je vais vous prendre un exemple, celui de l'égalité entre les femmes et les hommes. certains, au nom d'une religion, peuvent affirmer des choses qui ne sont pas conformes à cela. C'est condamnable, nous devons le condamner. Et donc, c'est une lutte à tous les niveaux que nous devons mener. Ce n'est pas seulement une lutte sécuritaire, elle peut exister, mais c'est une lutte que nous devons mener avec le ministère de l'Éducation nationale. Parce que nous devons agir dès le plus jeune âge, dans les classes, dans les quartiers avec Julien de Normandie, avec la justice, avec la ministre des Sports, avec le ministre de la Culture. Tous les ministères sont mobilisés. Et aujourd'hui, depuis 2018, nous agissons sur tous les leviers de contrôle. Nous agissons contre tous les acteurs de la radicalisation. Quand nous formons, depuis 2018, 130 débits de boissons, je ne vous parle pas d'infractions au jeu ou quoi que ce soit. Non, nous avons ciblé et nous agissons et nous fermons des machines à cash qui servent à financer des mouvements radicaux. Quand nous fermons 13 lieux de culte fermés depuis que je suis en responsabilité, 9 établissements culturels ou associatifs, 4 écoles, et quand nous agissons sur tous les contrôles CODAF, URSAF et que nous faisons des redressements, nous agissons sur tous les niveaux et c'est une lutte en profondeur que nous voulons mener.
On va continuer à parler, on se retrouve dans quelques instants avec le ministre de l'Intérieur.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et Christophe Castaner, que l'on retrouve pour cette dernière partie du grand rendez-vous. Cette semaine, on a assisté à un échange entre le Premier ministre et Damien Abad lors de la séance de questions d'actualité à l'Assemblée. On écoute, on regarde.
Je me permets d'indiquer, mais je sais, là où vous êtes assis, que cet aspect-là de la question ne vous a pas échappé, que la loi de 1905 ne s'applique pas sur la totalité du territoire national. Vous le savez, les deux départements alsaciens et la Moselle ne sont pas soumis à cette loi. Je le dis, je sais que vous le savez. Je ne crois pas que vous vouliez revenir là-dessus, d'ailleurs. Ou alors, dites-le, ce serait intéressant.
Une phrase un peu mystérieuse, quand même, du Premier ministre. Pourquoi il fait porter l'attention sur cette parenthèse, sur la laïcité dans la société française, c'est pour utiliser peut-être ce modèle pour organiser l'islam de France ?
Non, ça n'est pas notre objectif, ça n'était pas le sens de la remarque qui se voulait précise du Premier ministre sur ce sujet. Le Concordat est une spécificité régionale que nous connaissons, qui est liée à notre histoire, mais qu'il y ait effectivement, au moment où on faisait des grandes lois, comme la loi de 1905, dans laquelle la place de l'islam n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et il est essentiel de garder l'esprit de la loi de 1905 pour protéger toutes les religions, y compris l'islam. Et
je veux insister sur ce point-là. On peut réformer, il faut réformer l'islam, mais on ne touche pas à la laïcité. Beaucoup, au sommet de l'État, d'ailleurs, posent cette question en disant... Au fond, c'est un même temps impossible. On ne peut pas. Il va falloir décider.
D'abord, ce n'est pas à l'État de réformer l'islam. C'est à l'islam, en France, de s'organiser. Il y a des élections en ce moment, par exemple, sur le CFCM. Et on peut regretter...
Dans les toutes prochaines semaines, des annonces, a priori, peut-être, justement, de...
Déjà, des annonces qui ont été faites il y a peu de temps sur ce sujet. Puis une structuration de l'islam que moi, j'accompagne. Parce que s'il ne m'appartient pas comme ministre culte de décider ce qui doit être fait, par contre, je ne peux pas m'en désintéresser. Et donc, c'est d'abord un dialogue constant avec le CFCM, qui n'a pas toujours été constant. Il m'est arrivé de tendre la relation, chacun le sait, pour ceux qui suivent ce dossier-là, parce que je n'étais pas satisfait de l'état du dialogue et du respect de notre dialogue entre nous. Mais aujourd'hui, il y a une volonté forte, il y a des élections en ce moment au sein du CFCM. Nous avons besoin d'une organisation, à mon sens, plutôt départementale, au plus près des gens, pour que nous puissions travailler avec eux et de faire en sorte qu'on ne soit plus dans une organisation consulaire qui est souvent tenue et organisée par des pays étrangers. Mais c'est la responsabilité de ceux qui portent l'islam. Mais par contre, aujourd'hui, il nous faut... travailler avec ceux qui portent l'islam pour améliorer la place. Aujourd'hui, c'est dur de faire le choix d'être musulman dans notre pays parce que la stigmatisation que vous évoquez, elle est réelle et je dois la défendre. Je dois défendre
Pourquoi
ce droit fondamental.
Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aimez pas le terme islamophobie ?
Parce que l'islamophobie, au fond, est un terme qui est utilisé par certains pour empêcher de critiquer certaines dérives. Et donc, moi, je revendique la possibilité de faire la différence entre l'islam, la religion, l'islam, la culture et l'islamisme politique qui vise à imposer un modèle antidémocratique et antirépublicain. Et je ne veux pas qu'on me reproche et qu'on me dise « vous êtes islamophobe », ça n'est pas vrai. Je serai toujours le premier défenseur de ceux qui font un choix religieux qui n'est pas celui du ministre laïque que je suis. Je les défendrai tous.
Juste pour rappeler, peut-être pour conclure sur ce chapitre, vous avez, en avril 2018, vous aviez comparé le voile islamique au voile catholique que portaient les mamans de l'époque. C'était une confusion ou une manière de vous démarquer ?
C'était une manière de remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'il y a à peu près un tiers, 30%, 33% des femmes musulmanes qui portent le voile. Seulement un tiers. Et on en fait cet objet de stigmatisation dont on a tant parlé, alors que ça ne correspond pas à une réalité. Et j'ai rappelé que dans l'histoire, il y avait des usages. Et dans d'autres religions, il y a des usages et qu'il faut remettre les choses à leur place.
Et quand Jean-Michel Blanquer dit, ministre de l'Éducation, ça n'est pas, le voile n'a pas notre place dans la société, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous lui répondez?
Moi, vous savez, je suis ministre de l'Intérieur, j'ai qu'un seul objectif, appliquer la loi. Aujourd'hui, il y a une loi qui est claire sur la présence de femmes portant le voile dans les services publics. Ça n'est pas le cas et ça n'est pas interdit dans les sorties scolaires.
Nicolas Barré.
Alors, autre grand sujet qui concerne tous les Français, toutes les professions, j'allais dire, c'est la réforme des retraites. S'agissant des policiers, est-ce que vous souhaiteriez que s'applique, en l'occurrence, la fameuse clause du grand-père, en quelque sorte, que la réforme, donc, ne s'applique qu'aux nouveaux entrants dans la police?
Je crois que la question ne se pose pas ainsi pour les policiers, parce que le président de la République, le Premier ministre, très tôt, ont évoqué dans la réforme de retraite le fait de prendre en compte la dangerosité. Et s'il y a des métiers dangereux, ceux de gendarmes, ceux de policiers, sont assez faciles à caractériser. Donc c'est ce sur quoi nous travaillons avec les organisations syndicales. Nous avons rencontré avec Jean-Paul Delevoye les organisations syndicales. Nous poursuivons l'échange et nous devons travailler ici. Parce qu'il y a une spécificité. Enfin, il y en a plusieurs. Mais il y a une spécificité qui est celle qu'on appelle la bonification du cinquième. Parce que de toute façon, la situation physique de certaines personnes ne leur permettront pas d'être policiers à 62, 63, 64 ans s'ils le souhaitaient. Donc il y a une limite d'âge et nous devons prendre en compte cela. Donc la dangerosité sera la bonne réponse pour accompagner la modification du régime de retraite au ministère de l'Intérieur.
Donc la réforme ne s'appliquera pas tout de suite pour eux?
Non, pour ceux qui sont dans des fonctions dangereuses que nous sommes en train d'identifier avec les partenaires sociaux, nous devons prendre en compte cette spécificité et je la défendrai jusqu'au bout.
Daniel Floreau.
Un sujet qui divise votre majorité, on a vu des tensions. Ce matin, Florent Boudier, député de La République En Marche, eh bien, présente une proposition de loi pour assouplir la rétention des familles avec enfants en attente d'expulsion. Vous y êtes favorable, visiblement?
Oui, il le dit dans son texte, donc je ne voudrais pas contrarier
Florent Boudier.
C'est
une
Boudier,
façon
non, sérieusement, eh
bien,
oui, on travaille ensemble.
De calmer un petit peu des tensions au sein de votre majorité qui estime que vous êtes trop dur sur ce sujet de l'immigration.
De rassurer ce pôle gauche, vous savez, non. Vous venez de
non, parce que moi, je ne suis pas là pour rassurer un pôle gauche ou un pôle droite ou un pôle central. Je suis là pour faire en sorte qu'on puisse, sur ces sujets, avoir les solutions les plus efficaces et les plus humaines.
Sauf que c'est sur ce sujet qu'il y a eu notamment un départ encore cette semaine de votre groupe.
Je ne crois pas que ce soit sur le sujet migratoire globalement.
Voilà, globalement.
Oui, parce qu'effectivement, on peut considérer qu'il n'y a pas de problème et qu'aujourd'hui, nous maîtrisons parfaitement les flux migratoires dans notre pays. La réponse est non. Depuis le 20 octobre, la France est devenue le premier pays européen en matière de demandeurs d'asile. Nous avons battu l'Allemagne. Ça n'est pas logique. Je dis bien logique. Je ne dis pas que ça n'est pas juste, ça n'est pas bien. Je suis le premier défenseur de la protection et du droit d'asile. Mais ça n'est pas logique de voir qu'aujourd'hui, la France est devant tous les pays européens. Ça n'est pas logique de voir que le nombre de demandeurs d'asile qui rentrent en Europe baisse et qu'il augmente en France. Et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a présenté un plan d'action global qui renforce nos moyens en matière d'intégration, d'insertion, parce que c'est essentiel dans la maîtrise de la langue française, par exemple, mais qui nous permet aussi de faire en sorte que celles et ceux qui ne doivent pas rester en France parce qu'ils ne relèvent pas du régime de la protection des réfugiés, ils sont rentrés de façon illégale, puissent être éloignés. Donc c'est notre objectif. Et ensuite, il y a des cas humains très particuliers, notamment quand vous avez une famille avec des enfants mineurs. Généralement, la durée moyenne de mise à l'abri dans des centres spéciaux comme les CRA, c'est 16 heures. Et donc aujourd'hui, il y a une discussion pour qu'un juge puisse intervenir et autoriser cela. C'est indispensable pour procéder à l'éloignement et pour ne pas séparer parents et enfants. Mais il nous faut du coup l'encadrer. Nous travaillons avec les parlementaires sur ce sujet.
Christophe Castaner, je voudrais vous faire entendre le président de la République. C'était cette semaine au cours d'un déplacement. Il s'est exprimé sur le plan hôpital.
J'ai entendu leur colère et leur indignation face à des conditions de travail qui sont parfois devenues impossibles.
Nicolas Barré.
Alors, est-ce que cet acte 2 du quinquennat, finalement, ça ne va pas être la fin du en même temps et qu'il va falloir choisir entre transformer ou rassembler? Est-ce que ce n'est pas un peu ça le dilemme aujourd'hui?
Là, sur les hôpitaux, je pense qu'au contraire, on fait du en même temps. On est en train de faire une transformation en profondeur qui n'a jamais été faite de notre hôpital pour éviter ce qu'on avait fait jusqu'à présent, notamment par exemple sur le numerus clausus des médecins. On s'était dit, s'il y a moins de médecins, il y aura moins de demandes de soins. C'était comme ça qu'on a diminué le nombre de médecins en se disant ce sera plus compliqué d'aller chez son médecin, donc ça fera moins de dépenses. C'était n'importe quoi. Donc on augmente le numerus clausus. Et on réforme en profondeur l'hôpital, et c'est le plan porté par Agnès Buzyn, Ma Santé 2022.
Oui, mais là on voit bien que la réforme...
Et le en même temps, c'est justement de faire en sorte, et c'est ce qu'a dit le président de la République. Non, ce n'est pas cette réforme qui est difficile, c'est qu'il y a une urgence. Et le président de la République, il l'a dit. D'abord, dans une interview qu'il avait faite il y a quelques semaines, mais peut-être qu'on ne l'a pas entendu à ce moment-là, et donc il l'a redit parce qu'il n'avait pas été assez entendu, qu'au-delà de ces réformes de profondeur juste utiles pour sauver notre hôpital, il faut aussi des mesures d'urgence parce que les conditions de travail aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ce que nous devons accorder à nos personnels.
On a l'impression que maintenant,
d'où
c'est
le plan d'action. Et donc, c'est du en même temps. Oui, c'est de la transformation en profondeur et des mesures d'urgence pour que celles et ceux qui sauvent nos vies et nous accueillent puissent travailler dans de bonnes conditions.
On a quand même l'impression que cet acte 2, qui est celui de la concertation, officiellement, se marie difficilement avec justement les urgences que vous venez de dépeindre et l'urgence de transformer alors que le quinquennat arrive pratiquement, ça est arrivé à la moitié déjà, donc on va commencer à aller vers la campagne présidentielle. Donc il va falloir aussi continuer à aller vite tout en disant on veut prendre le temps. Comment vous faites ?
Vous avez raison, on va continuer à transformer, on continue à réformer.
Moi, j'ai rien de rien, je pose la question.
Non, mais je vous confirme que vous avez raison, et donc ça me fait plaisir, vu que jamais les journalistes ne disent ça aux ministres qu'ils interrogent. Donc je m'offre ce loisir, mais plus sérieusement. Nous allons continuer à réformer, mais nous le faisons à bon rythme, en prenant le temps de l'échange, de la discussion. On ne transforme pas, on ne réforme pas les retraites, ce qui est un sujet attendu par les Français, sans prendre en compte les appréhensions que génère la transformation. Donc oui, on prend le temps d'échanger, de discuter, d'aller sur les territoires. On nous a suffisamment reproché, notamment pendant la crise des Gilets jaunes, et j'évoquais tout à l'heure cette revendication légitime face à la fracture territoriale. On nous l'a reproché, nous allons sur le terrain. On ne peut pas nous le reprocher aussi.
Tous les ministres que l'on croise ces jours-ci, depuis des semaines, nous disent « on a peur ». Ces réformes, ces manifestations qui arrivent nous font peur. Est-ce que vous avez peur ?
Mais vous savez, chaque fois qu'on a engagé une réforme, je pense à celle de la SNCF, on nous avait annoncé que c'était impossible. Je crois même, pour avoir accompagné Emmanuel Macron avant qu'il soit président de la République, que l'idée même qu'il soit président de la République, c'était impossible. Que l'idée que nous ayons une majorité, c'était impossible. Que nous puissions réformer la SNCF, jamais personne ne l'avait fait, c'était impossible. Nous l'avons fait. Eh bien, nous allons continuer.
Mais est-ce que vous sentez ça avec vos collègues, avec les gens du gouvernement ? Parce que tout le monde dit, on ne sait pas vers quoi on va, on va encore bloquer le pays. Et est-ce qu'on va être capable de transformer ? Est-ce que vous avez peur qu'au fond, le pays se rebloque à nouveau ?
Mais bien sûr, c'est toujours une appréhension que nous avons et c'est pour ça qu'il faut expliquer. Et qu'il faut expliquer, comme sur les retraites, le Premier ministre l'a encore fait cette semaine à Pau avec Jean-Paul Delevoye et nous allons continuer à le faire. Mais vous savez, la meilleure façon de ne pas avoir peur, c'est de ne rien faire. Et je crois me souvenir d'un quinquennat précédent où ça n'a pas été très favorable à la majorité dont je faisais partie.
C'était le grand rendez-vous de Christophe Castaner. À bientôt.